Bonjour Cécile Duflo.
Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au lycée Louis Armand dans le cadre de la convention citoyenne organisée par l'établissement. Ancienne ministre du logement dans les gouvernements Hérault, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, députée de Paris et aujourd'hui directrice générale de l'ONG Oxfam France, la vie politique française n'a donc aucun secret pour vous. En ce lendemain de marche pour une loi climat, certains disent une vraie loi climat. Une question simple, comment allez-vous ?
Je vais bien, je vais très bien. Je suis absolument convaincue qu'on peut gagner cette bataille. Je ne suis pas encore sûre et certaine de la méthode, mais je suis pleine d'espoir aussi parce qu'à la marche climat, il y avait plein de monde, plein de jeunes, et je me dis qu'il ne faut pas baisser les bras maintenant.
Agir sur les racines des problèmes face à un modèle de développement inégal dans le monde semble être votre principale motivation. Les femmes en première ligne sont les premières victimes face au dérèglement climatique. Est-ce que vous pouvez expliquer aux élèves du lycée sur quoi repose ce constat ?
Alors ce constat, il repose d'abord sur le fait qu'en fait, toutes les inégalités sont potentialisées, maximisées, on va dire, par une inégalité millénaire qui est l'inégalité entre les femmes et les hommes. Et que donc, en matière de conséquences du dérèglement climatique, c'est la même chose. Les jeunes filles sont plus facilement déscolarisées pour aider leur mère à approvisionner la famille en eau dans les pays qui sont victimes de plus de sécheresse, en particulier dans la zone sahélienne. Dans les catastrophes naturelles qui sont augmentées par le dérèglement climatique, les femmes sont plus victimes que les hommes. Donc on peut multiplier les exemples, mais c'est aussi les femmes qui ont une partie des clés, parce que c'est elles aujourd'hui qui sont en charge de l'approvisionnement alimentaire d'une grande partie de leur famille, et en particulier il y a plus d'agricultrices que d'agriculteurs dans le monde, et qu'on sait très bien que cette question de l'adaptation au changement climatique va être cruciale en matière d'approvisionnement alimentaire.
Et de fait, quel rôle les femmes doivent véritablement jouer aujourd'hui ?
Elles doivent plus être bridées, limitées, contraintes dans leurs choix, comme les hommes d'ailleurs. Et donc je pense que cette question de l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet d'émancipation pour tous, pour les hommes et pour les femmes. C'est une société plus humaine, plus douce à vivre pour tout le monde finalement. Donc je suis là aussi optimiste parce qu'on est sur un chemin qui vient de très très loin, mais qui a vécu quelques accélérations ces dernières années. Et c'est une bonne nouvelle. Mais il ne faut là aussi pas relâcher la pression.
Dans cette différence de développement, nous ne sommes pas tous égaux en matière d'engagement. Les femmes les plus touchées n'ont pas forcément le bagage nécessaire pour s'engager en politique et les qualités requises. Est-ce que l'éducation des jeunes filles, l'intériorisation de compétences et surtout l'envie de s'engager ne sont-ils pas des questions clés à développer pour demain ?
Alors ça c'est sûr, mais ce qui est sûr aussi c'est que dans le mouvement climat on voit beaucoup de jeunes femmes. Alors à l'échelle internationale, les personnalités les plus visibles c'est souvent des jeunes filles, mais elles sont très nombreuses. Et puis quand vous dites les qualités pour faire de la politique ou pour s'engager, en fait il n'y en a pas des qualités a priori, c'est souvent des qualités qu'on développe avec l'expérience. Donc il faut lever les freins, et vous avez raison, il y a des freins qui sont souvent des freins individuels, mais qui sont induits par la société. Moi, je suis souvent assez marquée par les jeunes filles qui me posent comme question « Mais alors, comment vous avez pu concilier une vie personnelle et un engagement ?» Et c'est rarement une question que les garçons posent. Donc, il faut libérer les filles de cette pression-là, parce qu'en fait, elle ne doit pas exister, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir vouloir tout, un amoureux ou une amoureuse, des enfants, un travail, une carrière, ce qu'on veut. Et ça vaut pour les hommes aussi.
Alors pour poursuivre, j'ai pu regarder la rediffusion d'un débat de la primaire Europe Écologie Les Verts sur BFM TV qui m'a alors fait penser que la transition énergétique est devenue dans le débat public une réelle nécessité. Faut-il donc intégrer le mot écologie dans l'article 1 de la Constitution ? La France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale et écologique. Et ces décisions devraient-elles être prises par le biais d'un référendum ?
Alors, effectivement, c'est moi qui ai déposé une proposition de loi sur le sujet. Voilà,
C'était en 2016.
Oui, ça doit être ça, 2015 ou 2016. Et je continue de penser que c'est une bonne chose parce qu'en fait, notre Constitution, c'est le guide et c'est ce qui permet au Conseil constitutionnel de valider ou de censurer, des dispositions législatives. Donc ça a été un outil qui a empêché de prendre des mesures qui permettaient d'aller dans le bon sens. Alors c'est pas l'alpha et l'oméga, ça suffira pas, hein. C'est pas parce qu'on aura changé la Constitution qu'on va changer nos politiques, mais ça évitera d'être un frein, ça lèvera un frein, premier point. Est-ce qu'il faut que ce soit fait par référendum ? En fait, je ne suis pas sûre, mais si ça, il devait y avoir un référendum, je pense qu'il devrait porter sur aussi d'autres questions. Ça participerait d'une modification de notre République qui me semble nécessaire. On doit avoir une République plus parlementaire, plus collective, de tout faire reposer sur les épaules d'un seul et d'un seul pendant 5 ans. Je pense que c'est un déséquilibre, en fait, et c'est pas bon pour nos institutions.
Ça passe par une pluralisation des référendums ?
Ça pourrait, beaucoup, certains avaient imaginé ce qu'on appelle un référendum à choix multiples, c'est-à-dire avec plusieurs questions dans un référendum. Oui, parce que ça pourrait être un moment de débat démocratique où on n'est pas sommé d'être juste pour le oui ou pour le non, mais qu'il y ait plusieurs sujets qui soient débattus simultanément. Mais qu'on puisse remettre ça dans les mains d'une grande partie de la population, oui, je pense que ce serait une bonne chose, parce que de plus en plus, on sent une espèce de détachement vis-à-vis de la politique en disant que c'est réservé à quelques-uns. Alors, l'engagement, vous en parliez avant, mais aussi que voilà, on gouverne de façon très éloignée des citoyens. Et ça, je pense que c'est jamais bon, parce que ça fracture une société.
On l'a vu, cette loi climat qui va bientôt passer au Sénat fait débat. On sait aujourd'hui que 100% des groupes du CAC 40 se sont opposés aux mesures proposées par les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat via leur lobby sectoriel. Vous-même, vous aviez dénoncé à l'époque, lorsque vous étiez ministre, la pression des lobbies. A-t-on aujourd'hui des gouvernants soumis ? Comment lutte-t-on contre les lobbies ? Est-ce une question de pouvoir ou de courage ?
C'est plus une question de courage. Voilà. Alors c'est vrai que la pression des lobbies, elle peut être forte parce que certains ont beaucoup de moyens notamment de communication, de déstabilisation, de pression tout simplement. Mais il faut avoir le courage de résister, c'est-à-dire y compris de faire face en se prenant des critique, on va dire ça comme ça, de façon polie, mais des attaques très virulentes. Et d'une certaine manière, moi, j'ai coutume de dire que faut pas leur en vouloir. Au lobby, ils défendent leurs intérêts et leurs intérêts de boutique. Faut juste pas leur céder. C'est ça qui est essentiel. Et ce qui est vraiment très, très triste dans l'épisode de la loi climat, c'est que ce qui justifiait de ne pas agir de façon assez volontariste sur ces sujets-là, c'était dire « oui, mais les gens sont pas prêts ». Les gens sont pas prêts, regardez la taxe carbone. Et donc il y a eu cette convention citoyenne sur le climat, on a vu que des gens qui représentaient la société française dans toute sa diversité, à la fin étaient convaincus de la nécessité de mesures radicales. Pourquoi ? C'est pas, pour le coup, c'est pas idéologique, hein. C'est très scientifique et très pratico-pratique, hein, la réalité du dérèglement climatique, les conséquences et ce qu'il faut faire si on veut essayer de les éviter. Donc bon. Et donc du coup, d'avoir trahi cet engagement-là sous la pression des lobbies, ça oui, c'est quand même moche. Enfin vraiment, ça laisse une sale impression. Mais ce que ça veut dire, et donc si on retourne l'élément négatif, c'est que c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, la société française est beaucoup plus mûre que ce qu'on croit sur la nécessité de changer.
Je pense que vous avez tous pu voir que Joe Biden vient de proposer la suspension des brevets des vaccins pour lutter contre la Covid. Rappelons que la suspension des brevets permet la fabrication des vaccins à un coût moindre, facilitant ainsi leur accès aux populations les moins aisées, à l'image de l'Inde il y a quelques jours. Alors qu'en pensez-vous et quelle est surtout la position d'Oxfam ?
Alors, Oxfam a été une des organisations leaders de la mobilisation citoyenne au niveau mondial sur cette question, au sein du collectif People's Vaccine, parce que nous pensons exactement, comme vous venez de le dire, que pour des raisons à la fois de justice et aussi d'efficacité, il faut vacciner tout le monde, et le plus vite possible. Parce qu'en fait, le risque sinon, c'est qu'on ait des populations vaccinées avec un vaccin qui soit inefficace face à un variant qui sera devenu résistant. Au-delà de l'aspect de justice qui consiste à pouvoir prémunir l'ensemble de la population de la planète d'une maladie mortelle contre laquelle on a un vaccin. Il faut savoir que dans l'histoire, cette question de brevet, elle est intéressante. Hein. Le découvreur du vaccin contre la polio, qui était une maladie dramatique, a refusé de breveter sa découverte en disant « En fait, c'est si important qu'il faut que tout le monde puisse en bénéficier. C'est comme le soleil. » Mais il y en a d'autres qui n'ont pas breveté leurs inventions. Volvo a inventé la ceinture 3 points et ils ont déposé un brevet, mais un brevet ouvert. Un brevet pour dire comment il fallait faire, mais ouvert en disant « Tout le monde doit pouvoir y avoir accès. Ça sauvera tellement de vies qu'on n'a pas la possibilité de dire que ce sera que dans nos véhicules. » Donc on a un peu perdu ce sens de l'intérêt général et c'est une très bonne nouvelle que Joe Biden ait fait cette annonce, parce qu'en plus on sait, l'Inde l'a dit, l'Afrique du Sud et d'autres pays, ils ont les capacités de production, ils ont besoin que ces brevets soient levés.
Donc il est préférable de faire des brevets publics quand il est question de santé publique ?
Il est vraiment important, d'ailleurs ça pose la question de la recherche publique, est-ce qu'on doit motiver les chercheurs à faire progresser la science juste parce que ça va leur rapporter de l'argent, je suis pas sûre. D'ailleurs, je suis convaincue qu'une partie des chercheurs, ils sont contents d'avoir découvert ce vaccin pour sauver des vies, pas pour gagner plus d'argent. C'est avoir une vision d'eux assez particulière. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut financer la recherche? Oui. Et financer une recherche publique? Oui. Est-ce que ça veut dire aussi que de temps en temps, quand ce qui est en jeu, c'est l'avenir de l'humanité et que le vaccin doit devenir un bien commun? C'est aussi une évidence, d'autant que les entreprises qui ont, pharmaceutiques qui ont développé ces vaccins ont déjà gagné des milliards et des milliards, des dizaines de milliards de dollars. Donc elles ont déjà bénéficié d'un retour sur investissement.
Vous incarnez véritablement une femme polyvalente et cela se reflète sur vos nombreuses apparitions dans des débats ou bien encore dans des podcasts, comme celui avec les rédactrices du magazine Mademoiselle, que j'ai bien sûr écouté. C'était en 2018, je crois. Et j'ai pu apercevoir sur votre Twitter la multitude de recettes de cuisine que vous nous partagez. Et nous nous demandions alors quelle était la meilleure recette de mousse au chocolat.
La meilleure recette de mousse au chocolat? Alors moi, je ne suis pas, pas une grande cuisinière, mais je nourris beaucoup de monde, dont pendant des années beaucoup d'enfants et beaucoup d'amis et tout ça. Donc j'essaye d'avoir des recettes simples. J'adore la super cuisine. Ah oui. Et donc je serais très heureuse de pouvoir retourner au restaurant. Mais cette recette de mousse au chocolat, elle est hyper simple. Oui. Il faut juste avoir des blancs d'œufs. Alors, il paraît qu'on peut remplacer les blancs d'œufs par du jus de pois chiche battu, et que c'est bon. Mais on m'a dit ça, mais je n'ai jamais essayé. Voilà. Du chocolat fondu et du lait de coco. C'est tout. Et pour retrouver l'intégralité de la recette, vous pouvez aller sur mon compte Twitter. Donc, ma spécialité, c'est les recettes bonnes et pas compliquées. Voilà.
Et donc, pour approfondir ce sujet-là, la diversité et l'originalité de vos publications sur les réseaux sociaux ne briseraient-elles pas les oripeaux du pouvoir?
Ah oui, est-ce qu'il faut avoir l'air sérieux? Alors moi, vous savez, ça, j'ai fréquenté tellement de gens très importants qui se prenaient très au sérieux et qui n'étaient pas forcément, ou qui n'étaient pas l'image qu'ils donnaient, que je pense très profondément qu'on peut faire les choses avec beaucoup de sérieux, et j'ai été une ministre très sérieuse, sans se prendre au sérieux. Voilà. Et que c'est même plutôt signe de bonne santé mentale que de ne pas s'imaginer qu'on est béni des dieux parce qu'on est temporairement ministre, par exemple, ou même président de la République. Et que ces gens qui sont ivres du pouvoir ou ivres de leur statut, c'est pas une bonne chose. Voilà. Donc, et puis, si ça déplaît à certains qui préfèrent avoir une vision des hommes ou des femmes de pouvoir extrêmement froid et distant, bah tant pis.
Ça se voilà. Ressent beaucoup dans la politique.
Oui, moi j'ai vu vraiment des gens qui avaient l'air de gens très sérieux et qui étaient qui étaient des gens moches ou qui étaient des gens pas honnêtes. Ouais, donc je sais pas si c'est pas un truc très réfléchi chez moi, mais je trouve qu'en plus les réseaux sociaux ça tisse des liens avec les gens. J'ai appris plein de choses grâce aux réseaux sociaux, je lis plein de choses, je découvre plein de sujets. Peut-être que dans un bout de ma mission, c'était justement de dire... moi, je n'avais pas prévu d'être ni une femme politique et encore moins une ministre. Et de dire à des toutes jeunes filles que c'est possible. Voilà, qu'on ne devient pas une machine, qu'on n'a pas besoin d'être exceptionnel. Des fois, je rate des trucs. Hein. J'ai fait bouillir mes œufs au lait. J'ai dit sur Twitter aussi. Voilà. Donc, et les humains sont toujours comme ça. Enfin, il n'y a pas le facteur humain en politique est décisif. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se sangler dans un costume en ayant l'air très sérieux pour être plus sérieux. Et parfois même, c'est le signe de l'inverse.
Mais je vous ai entendu parler dans un récent podcast enregistré avec Noël, ma mère, que vous aviez un goût pour le vieux style en politique, ouais. En référence à cette réplique de Jean Rochefort. Comment justement voilà, concilier ce vieux style que vous appréciez en politique? Mais justement, là, vous veniez de nous parler de faire autrement, peut-être d'originalité aussi.
Ah, mais ce que j'appelle le vieux style, c'est la parole donnée, c'est un peu d'honnêteté intellectuelle. Je suis stupéfaite de voir un certain nombre de responsables politiques aujourd'hui mentir, mais sur des choses factuelles. C'est-à-dire qu'ils regardent votre collègue qui m'interviewe en disant « Super, votre pull vert !» Et vous dites « Bah, il est violet !» Non, mais soyez pas timide, le vert, ça vous va tellement bien. Et ça, moi, pardon, mais je suis pas faite pour ça. Je pense que... On doit avoir, et même en robe à fleurs, et même en tweetant des recettes de cuisine, on peut avoir le sens de l'État. Voilà, et j'en suis absolument convaincue. Et même peut-être davantage, parce que justement, on ne surjoue pas. Et c'est ça que j'appelle le vieux style. C'est avoir des convictions, c'est avoir de la constance, c'est avoir de la dignité, avoir le sens des rapports humains. Enfin, des choses que je trouve qui semblent avoir perdu de la valeur. On a l'impression qu'il y a de la classe dans la trahison. Non, je trouve qu'il n'y a aucune classe. Il y a juste de l'opportunisme bas de plafond. J'ai jamais calculé ça sous cet angle-là. Et puis, j'essaye toujours de guetter la sincérité. Et la sincérité, chez certains, ça peut être qu'ils sont pas super fun et qu'ils adorent les costumes cintrés, quoi. C'est, enfin, s'ils sont vraiment comme ça, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, souvent, ils ont un peu un humour pince sans rire, mais il faut bien les connaître. Moi, j'ai vu des grands serviteurs de l'État, des hauts fonctionnaires qui avaient l'air très impressionnants, qui étaient, quand on parlait avec eux, très sympas, mais ils étaient quand même constitués comme ça et ils ne surjouaient pas. Moi, ce qui me pose souci, c'est la malhonnêteté, mais la vraie malhonnêteté, à la fois intellectuelle et factuelle. Ça, c'est... Je préfère être en désaccord avec quelqu'un, qu'on discute de notre désaccord, qu'une personne qui me dit à moi qu'elle est d'accord avec moi et puis qui dit au suivant qu'elle est d'accord avec lui en pensant le contraire, juste parce qu'elle est persuadée que c'est ça qu'elle a envie d'entendre. Voilà. Et je pense que ce manque d'honnêteté, il se sent de la part des citoyens et il participe de la crise du politique.
Mais est-ce que vous pensez que cela est dû à la part croissante qu'a pris la communication aussi dans le discours politique, l'essor des chaînes de télévision d'information, enfin les chaînes d'information en continu par exemple?
Alors oui et non, c'est-à-dire que oui, ça participe, c'est-à-dire qu'on s'est dit bah la communication suffit, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait du moment qu'on en parle, enfin ça c'est pas nouveau, hein, ça fait quand même des années que certains ont pensé ça, mais à l'inverse, comme on a maintenant de plus en plus, et vous mais même des générations plus âgées que vous, qui ont été biberonnés à la com depuis tout petit, ils savent décoder les choses et ils savent les percevoir, donc je suis pas sûre que ça marche à long terme, voilà, ce qui apparaît comme des coups.
Alors, pour faire avancer les choses, il faut parfois faire pression sur le gouvernement. La preuve en est avec l'affaire du siècle. Cécile Duflo, vous avez été au gouvernement. Et j'ai lu qu'à cette époque, vous formiez avec Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Christiane Taubira, un espèce de quatuor de rebelles qui essayaient de faire changer la politique menée par le président Hollande. Depuis, vous avez tous quitté le gouvernement d'une façon ou d'une autre. Comment pouvez-vous nous expliquer, à nous, citoyens, qu'au plus haut sommet du pouvoir, il est si difficile de se faire entendre?
Là, pour le coup, c'est une question de rapport de force, mais c'est vrai que la politique, c'est souvent une question de rapport de force. Vous en parliez tout à l'heure sur les lobbies, et il y a aussi du rapport de force. Et à l'époque, on avait le sentiment que la pente qui était donnée à la politique choisie par François Hollande nous emmenait pas dans la bonne direction sur le fond, mais aussi à l'égard des gens qui nous avaient élus et qui avaient voté pour nous. Je crois qu'on s'est pas trop trompé quand on a vu le résultat final. À l'époque, c'était pas si évident. Enfin, moi, j'ai quitté le gouvernement en 2014 sur un désaccord politique qui était le fait de dire... en fait, on va pas faire ce qu'on s'était engagé à faire. Et ça, c'était quand même pour moi un gros problème. Mais je regrette pas. Parce que de temps en temps, quand on fait de la politique, on perd. Et là, on a perdu dans le rapport de force interne à la majorité avec François Hollande. Alors à la fin, tout le monde a perdu. Hein. François Hollande inclus, d'ailleurs, il a même pas été candidat. Mais voilà, des fois on perd, et des fois on perd parce qu'on a tort, et des fois on perd alors qu'on a raison. C'est ce qui nous est arrivé. Je pense qu'on avait raison, on avait senti un certain nombre de choses, et on a quand même perdu. Voilà.
Mais est-ce que vous pouvez dire que vous avez été témoin directement d'un système démocratique qui ne fonctionne pas forcément bien? Une 5e République avec un couple exécutif, Premier ministre, Président, qui finalement décide de tout?
Alors, vous avez parfaitement raison. J'ai été témoin d'un sujet qui me semble être un sujet de dysfonctionnement majeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend tout du président de la République. C'est lui qui va décider si on a le droit d'aller au théâtre ou au cinéma. C'est lui qui va décider si on intervient militairement au Mali ou pas. C'est lui qui va... Enfin, c'est pas possible, en fait. Personne n'est suffisamment ni brillant, ni quoi que ce soit pour décider seul. Et c'est pas sain. Ça n'est pas sain, parce qu'aujourd'hui, on a un Parlement qui est chargé de voter les lois et qui, en fait, est devenu une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire qu'on remplacerait les députés de la majorité par des machines à voter, ce serait pareil. Et les députés de l'opposition, ils sont condamnés à s'exprimer, à faire des vidéos sur leurs expressions, mais ils pèsent plus sur rien. C'est aussi parce qu'on a une majorité hyper large, du coup, pas de coalition, pas de discussion, sauf que c'est très déstabilisant parce qu'il n'y a pas la cohésion qui naît de la délibération à l'Assemblée. Et ça, c'est un véritable problème.
Vous l'avez dit, à votre niveau, se faire entendre, c'est un véritable rapport de force. Mais pour nous, lycéens, comment réellement on peut se faire entendre aujourd'hui? Comment peut-on faire entendre notre voix dans un pays qui potentiellement se montre des fois un peu désintéressé des questions qui préoccupent les jeunes?
Ah bah vous avez raison, je pense que ça c'est pour le coup, c'est l'enjeu le plus essentiel, c'est qu'en fait, les décisions qui sont prises aujourd'hui, elles vont impacter votre vie, pas la vie des sexa-septuagénaires, hein, votre vie, et de manière considérable. Et donc peut-être plus qu'à plein d'autres époques, où vous êtes encore plus légitime pour vous exprimer et pour qu'on vous écoute. Moi, je suis vraiment convaincue qu'aujourd'hui, on gouverne les décisions qu'on prend aujourd'hui, parce que les décisions en matière écologique et notamment en matière de dérèglement climatique, c'est des décisions qui se cumulent. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre qui sont émis en trop maintenant, on ne pourra pas les supprimer comme par magie. C'est-à-dire qu'ils s'additionnent. Et donc, si j'avais votre âge, je serais, je pense, très fâchée et je serais encore plus déterminée à m'engager. Mais avec mon âge à moi, je trouve ça extrêmement légitime que les jeunes, les lycéens, les étudiants, et enfin les jeunes en général, bousculent leurs aînés. Ils sont légitimes, y compris à être très fâchés. Parce que les décisions qui ne sont pas prises aujourd'hui vont faire peser sur votre avenir, sur leur avenir, des conséquences qui sont des conséquences qu'on a du mal à évaluer, mais dont on pense qu'elles pourraient être extrêmement dramatiques. Et donc ça vous rend, puisque vous êtes là, vous êtes vivant, vous êtes capable de penser, capable de comprendre, ça vous rend ultra légitime à ruer dans les brancards, mais vraiment.
Donc pour parler de la protection environnementale à une différente échelle, pensez-vous qu'il serait important d'établir une gouvernance climatique ?
Alors, je pense que la question de comment on transforme cette question climatique en un cadre contraignant, c'est-à-dire comment on dit, on parlait tout à l'heure de faire entrer l'écologie ou le climat dans la Constitution, mais comment on dit, en fait, ça, c'est une barrière. On ne peut pas prendre des politiques qui ne rentrent pas dans un monde à 2 degrés. Ça, c'est vraiment une question centrale. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette contrainte-là, et du coup, on y échappe en permanence. C'est-à-dire cette contrainte qui aurait dû dire, la loi climat, ou toute loi d'ailleurs, elle doit rentrer dans ce cadre-là. Et la loi climat, clairement, pour le coup, tous les organismes qui l'ont étudiée disent « ça ne nous fait pas atteindre les objectifs en matière de baisse des émissions ». Et pourtant, on sait ce qu'il faudrait faire. Et donc ça, il faudrait que ce soit absolument impossible. Parce que c'est une nécessité scientifique aujourd'hui. Et puis ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'en fait, la France est en train de tomber dans un espèce de piège à double tranchant. C'est-à-dire qu'on a eu un président qui a été très vocal. Vous vous souvenez de Make Our Planet Great Again, etc., les leçons données aux États-Unis, sauf qu'on est en retard. L'Allemagne a été condamnée en interne, justement, exactement sur le même modèle que l'affaire du siècle, et la chancelière a annoncé qu'ils allaient rehausser leurs objectifs de baisse des émissions. En France, on n'en est pas encore là.
Vous l'avez dit, la jeunesse doit s'engager, elle s'engage, et on voit qu'elle s'engage beaucoup plus dans le milieu associatif et elle déserte les partis politiques. Vous avez été à la tête d'un grand parti politique. Que pensez-vous de cette situation en ce moment ? Vous trouvez ça dommage ? Elle doit réinvestir les partis parce que c'est important pour la vitalité de notre démocratie ?
Alors, je ne sais pas si c'est les partis ou tel parti, mais elle doit investir la politique, oui, parce qu'on le voit bien, même avec des tas de marches climat, même avec une grosse mobilisation, si, même avec la Convention citoyenne, s'il n'y a pas à un moment les clés qui sont tournées dans le bon sens au niveau des décisions politiques, ça ne suffit pas. Donc cette question de l'investissement des jeunes dans le politique, dans le fait de voter, mais pas seulement, dans le fait de s'engager, et même dans le fait de gouverner. Vous savez, moi, j'ai pas de... On est dans une société où on considère... J'ai souvent dit ça en rigolant, quand j'ai été membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, j'étais la secrétaire d'âge, c'est-à-dire que pour le premier bureau, j'étais la plus jeune. Je suis arrivée à Oxfam, je fais partie des plus vieilles. Et je pense qu'il n'y a aucun problème à ce que des gens très jeunes aient des responsabilités. Si on regarde dans l'histoire de France, dans ceux qui ont reconstruit la France après la Libération, il y avait beaucoup de gens qui avaient 20 ans, 30 ans, il y avait aussi des gens qui avaient 60 ans. Moi, je crois à la mixité générationnelle. Je pense qu'il ne faut pas que des jeunes, pas que des vieux non plus. Et pour l'instant, il n'y a surtout que des vieux. Il faut mixer ces générations-là. Donc oui, je suis favorable à ce que les jeunes s'engagent, mais je suis surtout pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ce soit eux qui le choisissent, pas qu'il y ait d'obligation. Je pense que l'engagement politique, associatif, militant, ça doit être un choix conscient et volontaire. Après, je pourrais dire à un jeune de 20 ans qui dit « moi, j'en ai absolument rien à faire », je dis « bah écoute, t'en as rien à faire maintenant ». Dans 20 ans, tu te diras « voilà, donc, je suis bien désolée que la situation soit celle-là. C'est juste un constat. Et pour le coup, il y a des gens qui sont plus responsables que d'autres. Moi, je veux juste obtenir un bout d'absolution qui est qu'il y a 20 ans, j'étais beaucoup plus jeune et je disais déjà la même chose.
Alors, non. Vous avez quelque chose à rajouter ?
J'ai quelque chose à rajouter et qui est très sincère. Je suis donc très souvent interviewée par des journalistes. Et j'ai rarement vu une interview aussi préparée et aussi peu politicienne que celle que vous venez de faire. Et vous avez... Parce que c'est vraiment... Enfin, c'est très sincère. Vous savez, parfois, c'est fatigant de donner des interviews à des gens qui vous disent « Alors, Madame Dufaux, vous ne l'avez pas fait. En tant qu'ancienne ministre de l'écologie, voilà, non, j'ai pas été ministre de l'écologie, ou plein de trucs alors que vous avez préparé et travaillé. Donc voilà, c'est, est-ce que des jeunes sont capables de gouverner, y compris des jeunes de 18 ans qui sont éligibles, exactement comme moi? Je pense que oui. Et si ça défrise certains, je suis absolument convaincue que ça ferait beaucoup de bien à la démocratie.